Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO.
Voilà, merci à J.R. Lungembo et puis à Radio Okapi depuis Utex. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Okapi, membres de la presse, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. À la une de cette conférence de presse, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la nouvelle résolution 2348 qui prolonge d'un an le mandat de la MONUSCO. Nous vous proposerons dans cette conférence de presse une synthèse de cette nouvelle résolution. Visite à Kananga de David Chrysler, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, chargé des opérations et de l'état de droit. Et puis selon OCHA, depuis août 2016, 1 074 000 personnes sont affectées par la crise dans la région des Kasaï. 3 500 membres du champ École Paysan sont réunis à Kikwit dans le Bandoudou. Et puis l'actualité pays sera présentée, comme vous l'avez deviné, par Florence Marchal tout à l'heure. Nous aurons, comme d'habitude, le point de la situation militaire depuis Goma avec le lieutenant-colonel Serge Hag. Invité spécial de cette conférence de presse, David Chrysler, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, chargé des opérations et de l'état de droit, qui est donc en direct avec nous depuis Goma. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous allons commencer tout de suite donc par cette information en provenance du siège des Nations Unies à New York. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le vendredi 31 mars dernier la résolution 2348 prorogeant jusqu'au 31 mars 2018 le mandat de la MONUSCO. Et cette nouvelle résolution du Conseil a décidé des priorités stratégiques de la MONUSCO pour l'année en cours. D'abord, assurer la protection des civils. Et la résolution précise, assurer une protection efficace et évolutive des civils se trouvant sous la menace de violences physiques, en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population. Deuxièmement, appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Donc, fournir un appui technique et politique à la mise en œuvre de l'accord, notamment du CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord, au gouvernement d'unité nationale, à la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui assure la médiation afin de favoriser la réconciliation et la démocratisation et d'ouvrir la voie à la tenue d'élections avant la fin de l'année 2017. Fournir aussi une assistance technique et un soutien logistique dans le cadre du processus électoral en coordination avec les autorités, l'équipe de pays des Nations Unies et les autres acteurs régionaux et internationaux. La résolution 2348 insiste sur le bon déroulement du processus politique et électoral en demandant à toutes les parties prenantes à RDC, y compris le président Kabila, la majorité présidentielle et l'opposition, de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre 2016 et en toute bonne foi et dans son intégralité, et à redoubler d'efforts en vue de parvenir rapidement à la conclusion des pourparlers en cours sur les arrangements particuliers afin de nommer sans tarder un premier ministre présenté par le rassemblement conformément à l'accord conclu, de mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord et d'appliquer pleinement les mesures de confiance. Sur le volet des droits de l'homme, la résolution demande au gouvernement de la RDC d'amener à répondre de leurs actes les auteurs des violations du droit international humanitaire ou des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits, en particulier lorsque ces infractions constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Enfin, le Conseil a exhorté le gouvernement et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert et transparent, pacifique et conforme au calendrier électoral et à la Constitution, et qu'il s'accompagne d'un débat politique libre, constructif, et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, la liberté de réunion et un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. Voilà donc pour cette synthèse donc de cette nouvelle résolution que vous allez recevoir à la fin de cette conférence de presse dans son intégralité. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies RDC, chargé des opérations et de l'état de droit, David Chrysler, s'est rendu le 3 avril à Kananga pour envisager avec les acteurs locaux des solutions et stratégies à mettre en œuvre pour répondre à la situation sécuritaire volatile qui prévaut actuellement dans le Kasaï central. Au cours de sa visite, il a rencontré différents acteurs de terrain, dont les collègues de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies qu'il a félicité au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC, pour le travail accompli dans la recherche des deux experts morts dans l'exercice de leurs fonctions et des quatre Congolais qui les accompagnaient et qui sont toujours portés disparus. Il les a ensuite encouragés à travailler, à continuer à travailler ensemble pour le peuple du Kasaï afin qu'il retrouve sa paix et sa quiétude d'antan. Pour cela, il a annoncé que l'antenne de la MONUSCO à Kananga sera renforcée en devenant un bureau à part entière. Et ce, dans le but de permettre la mise en œuvre du plan spécifique sur la crise au Kasaï central. Ce plan, comme il l'a expliqué M. Gressley lors de sa visite donc sur place aux journalistes locaux et à la sortie de l'audience avec le vice-gouverneur du Kasaï central, permettra aux populations kasaïennes concernées de pouvoir s'enrôler, répondre à la crise humanitaire qui se dessine et ramener la paix dans le milieu, tout en mettant l'accent sur le monitoring et la documentation des cas de violation des droits de l'homme commises par les parties en conflit, dont les auteurs devront être traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs crimes. À ce propos, il a déclaré que les enquêtes sur la mort des deux experts onusiens Zaïda Katalan et Michael Sharp, ainsi que la disparition des quatre Congolais qui les accompagnaient, vont se poursuivre pour trouver les auteurs afin que justice soit faite. Après une courte visite au bureau de l'auditeur militaire de garnison de Kananga, où il a également échangé avec le médecin légiste, David Gressley a quitté Kananga après un message de soutien aux forces spéciales de la MONUSCO basées à l'aéroport de Kananga. Communiqué de la MONUSCO déplore les hostilités et l'escalade des violences dans les provinces du Kasaï. La MONUSCO est préoccupée par les rapports en provenance de la province du Kasaï faisant état de l'escalade des violences qui se poursuivent et qui pourront déboucher sur des violations graves des droits de l'homme affectant un nombre de plus en plus important de victimes civiles ainsi que la découverte de fosses communes et de recrutement d'enfants par les milices. Les violences dans les provinces du Kasaï auraient tué plus de 400 civils, un nombre élevé des membres des forces de sécurité. Cela doit s'arrêter, a affirmé M. Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC et chef de la MONUSCO. Il est clair qu'il n'y a pas de solution militaire à ces violences. À ce stade, intensifier la réponse militaire ne fera qu'exacerber la violence et déplacer davantage de populations civiles en danger, a prévenu M. Sidikou. La MONUSCO salue les initiatives en cours prises par le gouvernement congolais pour appuyer les efforts visant à mettre fin aux hostilités, encourager la reddition des éléments de la milice et trouver des solutions durables aux disputes pour accéder au leadership coutumier. La MONUSCO encourage également le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver des solutions politiques acceptables. La MONUSCO exhorte également le leadership Kamina Sapu et d'autres milices à arrêter immédiatement les violences et le recrutement d'enfants. Vous aurez aussi l'intégralité de ce communiqué de presse à la fin de cette conférence de presse. Information publique à présent. En présence des autorités locales, la MONUSCO Béni a remis à la population du quartier de Zuma, dans la commune de Rouenzéré, un projet d'adduction d'eau potable. La communauté s'est mobilisée pour trouver le terrain et participer à la construction d'un point de captage d'eau et d'une fontaine d'eau potable gratuite financée à hauteur de plus de 8 000 $ américains. Ce projet d'adduction d'eau potable permettra de réduire les risques sécuritaires et sanitaires pour la population de ce quartier, en particulier des femmes et des jeunes filles qui devraient jusque-là parcourir au moins 4 km pour avoir accès à de l'eau de source. Section de l'information publique de la MONUSCO Kalemi, qui appuie donc la police de la MONUSCO dans le lancement du projet Stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité à Kalemi, Solika. Une série d'annonces médias et d'autres dépliants permettront d'informer les populations de Kalemi et environ sur la mise à la disposition de numéros verts. La cérémonie de lancement se tient ce 5 avril à Kalemi et l'information publique est associée donc à cette manifestation. Pour rappel, ce projet existe déjà dans d'autres villes de la RDC telles que Beni et Oicha, Solib, Ouvira, Solib et où les policiers de la MONUSCO ainsi que ceux de la PNC, entre autres, font des patrouilles régulières de sécurisation de la ville. Voilà donc tout pour les informations en provenance de la MONUSCO. Nous allons tout de suite passer la parole à l'équipe pays et nous allons retrouver pour ce faire Florence Marchal. Florence, bonjour, c'est à vous.
Merci Charles, bonjour à tous. Nous en avions fait écho lors de la conférence de presse de la semaine dernière. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC a organisé récemment plusieurs missions d'évaluation dans le Kasaï et le constat est terrible. Près d'1,8 million de personnes sont affectées par la crise complexe qui sévit dans les 5 provinces de cette région depuis août 2016. Selon des rapports officiels, le bilan des actes de violence s'élève à au moins 400 décès et 637 000 personnes ont dû fuir leur maison depuis août dernier. Si 202 000 ont pu rentrer chez elles, près de 434 000 d'entre elles sont toujours déplacées en grande majorité dans la province du Kasaï. Mi-mars 2017, la crise s'est étendue à la province du Lomami ainsi que dans le Sankuru. Alors pour faire face à cette crise humanitaire, le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a alloué 4,5 millions de dollars américains aux agences des Nations Unies pour couvrir 30% des besoins identifiés à ce jour. Le Royaume-Uni a également alloué 500 000 dollars à Action contre la faim et Christian Aid pour apporter une assistance en vivres et articles ménagers essentiels aux populations vulnérables, tout comme l'ONG Catholic Relief Service qui mène actuellement une intervention d'urgence grâce à un premier financement de l'UNICEF d'1 million de dollars. OCHA nous signale que plus de 1000 hectares de champs d'arachide, de maïs et de riz ont été ravagés suite à de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 avril dans la zone de Mufunga Sampue, dans le territoire de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Ces inondations, couplées à une invasion de chenilles qui depuis plusieurs semaines ravagent de larges surfaces agricoles dans les provinces du Haut-Katanga, Olomani et Lualaba font craindre une situation alimentaire inquiétante dans les semaines à venir. Selon les experts en sécurité alimentaire, Mitwaba est classé en phase 3 sur une échelle de 5 en termes d'insécurité alimentaire. UNMAS, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, organise une série d'événements du 2 au 6 avril à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine, officiellement célébrée le 4 avril, donc hier, de chaque année. Sous le thème « Un environnement sans danger, la communauté protégée », les différentes activités organisées cette année marquent le 20e anniversaire du UNMAS et 15 ans de lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Alors à Goma, course relais en Tshukudu et concert de David Diouf, démonstration de déminage, centre d'information, pièce de théâtre et concert à Bukavu le week-end dernier, avant Kinshasa demain, où les opérateurs de la lutte anti-mine et représentants du gouvernement congolais et la communauté internationale feront le bilan de la situation du pays et aborderont ensemble les progrès et les défis. À ce jour, 65% des 156 zones suspectées dangereuses recensées dans le pays ont été dépolluées et remises aux communautés afin qu'elles puissent reprendre leurs activités sans danger, ce qui correspond à la destruction depuis janvier 2015 de plus de 330 mines, 92 000 restes explosifs de guerre et 2 400 000 munitions de petit calibre. Bien que ces projets soient encourageants, le nombre de victimes des restes explosifs de guerre reste conséquent, avec plus de 100 victimes, dont 75% d'enfants, depuis 2014. Des représentants du UNMAS sont présents dans cette salle et pourront répondre à votre question pendant et à l'issue de cette conférence de presse. Et puis Charles l'a mentionné en ouverture de cette conférence de presse, plus de 3500 paysans membres d'une centaine de champs écoles paysans se sont retrouvés la semaine dernière à Kikuit et Bandoudouville afin de partager leurs connaissances et expériences sur la dynamique créée par la mise en place de cette approche dans les provinces de Kwilu et Kwango. Le champ école paysan est un cadre de rencontres et de formation pour un groupe d'une vingtaine de producteurs, une école sans mur qui se déroule dans un champ tout au long d'une saison de culture. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Initiative pour lutter contre les violences basées sur le genre en RDC, programme Femmes et Hommes Progressons Ensemble, exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en collaboration avec l'UNICEF sur un financement de l'Union Européenne.
Voilà, merci à Florence Marchal pour ce tour d'horizon de l'actualité de l'équipe pays en RDC. Direction à présent Goma, où nous allons retrouver le lieutenant-colonel Serge Hague. Lieutenant-colonel, bonjour, c'est à vous pour le point de la situation militaire dans le pays. Le son, s'il vous plaît, à Goma ne passe pas. Peut-être que, voilà, le son. Allez-y, c'est bon maintenant.
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été jugée relativement calme durant la semaine écoulée. dans les provinces situées au centre du pays, notamment l'Omami, Kasaï central, elle a demeuré tendue et imprévisible du fait de l'activisme des miliciens Kamuna Nsapu. Au Kasaï, plusieurs incidents liés à l'activisme des miliciens Kamuna Nsapu ont été enregistrés dans la localité de Luobo, située à 134 km au nord-est de Kikapa, et provoqué le déplacement de la population civile vers les localités de Kampougou et Mueka. Dans la province de Kasaï central, les accrochages ont été rapportés entre les éléments de la milice Kamuna Nsapu et les forces de défense et de sécurité congolaises FARDC à Timbulu, situé à 116 km au sud-est de Kananga, où 25 assaillants ont été tués et 20 autres blessés. Dans les provinces du Haut et du Bas-Wélé, la situation sécuritaire, jugée relativement calme, a cependant été marquée par l'activisme des éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans la localité de Banda. En Ituri, la situation sécuritaire a été jugée globalement sous contrôle. Dans le territoire du Rumu, les attaques menées par les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, contre les positions de l'armée congolaise, les centres d'enrôlement, les populations civiles ont été rapportées. Dans le territoire de Mambasa, des redditions volontaires des éléments du groupe Maïmaï ont été enregistrées. En effet, 6 éléments du groupe Maïmaï, Simba, se sont rendus volontairement aux autorités locales et aux troupes des FARDC. Au nord de vous, les forces congolaises et onusiennes agissent ensemble pour maintenir la situation sécuritaire sous leur contrôle, en dépit de l'activisme de certains groupes armés dans les différents territoires de cette province. Dans le territoire de Beni, les forces coalisées FARDC et MONUSCO maintiennent la pression militaire sur les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF et ceux du groupe Maïmaï dans le but de mettre un terme aux exactions perpétrées contre les populations civiles et les forces de défense congolaises. Le 1er avril 2017, 250 éléments du groupe Maïmaï ont attaqué la localité de Supa Kalaou, à 9 km au sud-ouest de Beni. Alertée, la force de la MONUSCO a immédiatement projeté des troupes d'intervention rapide dans la région et mené des patrouilles de bouclage et de ratissage dans le but de dominer le terrain, de dissuader d'autres incursions et de protéger les populations civiles. Dans le territoire de Massissi, le 28 mars 2017, des casques bleus, les troupes de la police nationale congolaise, les FARDC, ont été rapidement déployés à Massissi Centre suite au meurtre d'un ressortissant de la communauté Houndé par un combattant démobilisé afin de prévenir l'escalade de la violence. Au chapitre des redditions, dans la province, du 29 mars 2017 à ce jour, 3 éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud de Kivu, les forces congolaises et onusiennes mènent des opérations militaires et des patrouilles conjointes pour interdire la liberté de mouvement aux groupes armés actifs, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur la reddition volontaire à des éléments de forces négatives. Ainsi, les 1er et 2 avril 2017, 12 éléments du groupe Maïmaï, Karakara, se sont rendus volontairement aux troupes de la force MONUSCO basée à Sangé. Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été jugée tendue dans la région de Bandera suite au conflit rapporté entre les communautés Banyamulenge et Toa. En effet, le 28 mars 2017, environ 70 éléments armés supposés appartenir aux communautés Banyamulenge et Bafuliro ont fait incursion dans la localité de Kanambe, située à environ 105 km au nord de Kalemie et 15 km au sud de Bandera, et tué 5 membres de la communauté Toa. L'incident a provoqué le déplacement des populations civiles vers la localité de Bandera. Les forces de la MONUSCO ont évacué 2 individus blessés au cours de ces incidents vers Bandera pour des soins médicaux appropriés. La force de la MONUSCO a également intensifié des patrouilles vigoureuses de domination de terrain dans les zones situées dans la région de Bandera affectées par des tensions dans le but de dissuader toute activité négative et de protéger les populations civiles. Une mission conjointe d'évaluation composée, notamment de la force de la MONUSCO, a également été menée le 3 avril 2017 à Bandera dans le but de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la région et de prendre des mesures appropriées visant à prévenir d'autres violences intercommunautaires dans la zone. Enfin, la force de la MONUSCO a maintenu un très haut niveau de patrouille armée, de jour comme de nuit, et a fourni plusieurs escortes soit pour évacuer les civils blessés, soit au bénéfice d'ONG pendant la période sous examen. Merci.
Voilà, merci donc au lieutenant-colonel Serge Hague depuis Goma pour ce tour d'horizon de l'actualité militaire de la semaine en RDC. Cela nous conduit à ouvrir directement la session question-réponse de cette conférence de presse. Et je rappelle que nous avons comme invité M. David Grisley, qui est donc le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé donc des opérations et de l'état de droit. Il était récemment, comme vous le savez, à Kananga. Il était aussi, vous le savez pas sans doute, à New York lors du vote de la nouvelle résolution sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Donc il est ici en plusieurs capacités et il pourra répondre donc depuis Goma aux questions des journalistes et à Goma et ici à Kinshasa. Voilà qui ouvre donc cette deuxième session de la conférence de presse. Je vous demande une fois de plus de fermer vos téléphones, hein, parce que le téléphone continue à ronronner parfois à cette conférence de presse. Nous allons rester ici pour donner la parole tout d'abord à la gauche, puis à la droite. Mais je disais, on va essayer d'innover. Hein. Ce sont les mêmes personnes qui posent les questions, donc on va essayer de trouver... voilà, monsieur, présentez-vous et puis posez une question. Prenez le micro. Hein. Une question et voilà, comme ça on va vous aider.
Merci beaucoup. Jeff Mbia, coordonnateur des réseaux de communicateurs humanitaires.
Parlez fort, parce que monsieur...
Je réponds au nom de Jeff Mbia. Je suis coordonnateur des réseaux de communicateurs humanitaires. Je viens de Lubumbashi. Ma question est celle de savoir... si vous ne craignez pas que les Kasaï puissent aussi devenir polygone de la mort, avec le nombre d'effectifs que vous avez présentés, plus d'un million, alors qu'au Katanga, nous avons assisté entre 2011 et 2014 à plus de 500 000 déplacés, là nous avons déjà les doubles, vous ne craignez pas que les Kasaï, avec le phénomène milice, comme on a sans pour que nous puissions avoir les polygones de la mort, parce que nous avons quitté le triangle de la mort au polygone de la mort, surtout avec l'élargissement des exactions que nous avons connues à l'époque des GD1 ainsi que Bakatakatanga. Mais aussi, je voulais savoir, l'on annonce disons, les Maïmaï plus de 300 au niveau des Mitwaba qui sont prêts, oui, à déposer leurs armes au niveau des Pengue ainsi que Moussoumali, alors que nous savons bien que les dispositifs d'accueil posent problème. Je voulais savoir, en rapport avec la résolution 2348, que compte faire la MONUSCO pour appuyer les autorités locales de Mitwaba, parce que depuis hier que les négociations ont commencé au niveau d'Mpenge ainsi que Mupanga, vous le connaissez bien à travers vos services, comment appuyer la population pour que la paix puisse revenir dans la zone du triangle de la mort dans l'ex-province du Katanga.
Ok. Comme je disais, le représentant spécial adjoint revient de Kananga, où il a fait une visite de quelques temps là-bas, et il va peut-être vous donner un peu sa perception de la situation là-bas. Je rappelle que, comme je le disais, à la fin de cette conférence de presse, vous aurez un communiqué qui revient un peu sur les grandes lignes de la situation, c'est vrai, dans la province du Kasaï, et aussi de ce que nous, MONUSCO, nous faisons sur place, où nous entendons faire sur place pour en tout cas essayer d'atténuer les difficultés des populations sur place, pour essayer d'accomplir donc notre mission de protection des civils. Dans un premier temps, peut-être, M. Grisley, un point de la situation à Kananga, comme vous l'avez perçu lors de votre voyage.
Merci Charles. En fait, je crois que je vais commencer avec la deuxième question, parce que je peux répondre à ça rapidement. En fait, nous sommes déjà engagés avec le programme BNDDR3 pour voir comment on peut donner un coup de main pour le transfert de ceux qui ont déjà accepté de participer dans ce programme de désarmement. J'ai donné mon accord au ministre de la Défense. J'étais avec lui il y a une semaine à peu près. Donc, je crois que maintenant on parle d'une centaine d'hommes qui ont déjà accepté d'aller pour ce programme et on va faire le transfert dans les médias. Pour le reste, pour le Kananga, je dois dire, et c'était, je crois, très clair dans le communiqué, que la situation reste très, très tendue dans la région de Kasaï. le niveau de violence maintenant dépasse ce qu'on voit dans l'est du pays. Donc, je crois ça demande une réponse appropriée. Moi-même, j'étais là, comme c'était dit par Charles, pour évaluer la situation sur le terrain. Ce n'était pas ma première visite, mais je crois, étant donné la situation actuelle, c'était un voyage qui a été demandé. J'ai été là pour plusieurs raisons. D'abord, pour remercier nos collègues et surtout notre force et police qui a pu trouver à la fin les corps de nos deux collègues. Ce n'était pas une tâche facile, mais c'était important. Et nous avons répatrié les corps au pays d'origine de ces deux collègues. En fait, on va avoir une cérémonie pour ces deux aujourd'hui, en mémoriam pour eux. Et je dois vraiment dire que nous apprécions beaucoup, pas seulement leur travail, mais surtout leur sacrifice ultime pour la paix, pour le droit de l'homme ici dans le pays. Donc, je crois qu'on doit reconnaître leur travail. Deuxièmement, j'étais là pour assurer qu'on va donner un coup de main dans l'enquête criminelle qui a été déjà lancée par l'auditeur militaire. Je crois que ça, c'est aussi important. On a déjà envoyé une équipe des enquêteurs qui va aider dans la poursuite des auteurs de cet crime. Nous sommes très engagés sur ça aussi. Troisièmement, c'était d'examiner qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment répondre à la violence qu'on voit dans la région. Comme je disais, ça reste très tendu, mais la violence surtout est très importante. Donc, nous avons pris quelques décisions après cette visite de renforcer notre bureau.
Nous avons un petit problème technique, peut-être que ça va revenir. Nous allons peut-être continuer ici. Florence, je crois que vous vouliez compléter ce volet de la question de notre ami journaliste.
Oui, bah, pour rappeler effectivement que, comme je le disais et comme nous l'avons dit tous les deux, nous sommes tous concernés par la situation dans les Kasaï. Donc avec cette évaluation faite par OCHA suite à 3 missions effectuées récemment, et le constat est fait maintenant, il y a des personnes qui sont en souffrance et en besoin d'assistance dans cette partie du pays, et maintenant les Nations Unies, nous entamons des opérations de plaidoyer afin de pouvoir recueillir tous les fonds pour pouvoir assister ces personnes. Donc effectivement, côté MONUSCO, pour faciliter un dialogue, une solution politique, et côté humanitaire, toute la famille des Nations Unies et humanitaire est mobilisée pour répondre à cette crise.
Nous allons prendre une question ici. On a un micro. Allez-y, madame. Voilà.
Ça va?
Oui.
Merci. Monsieur porte-parole, c'est Sylvie Fortuné Mboula pour Antenna. La nouvelle résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU mandate la MONUSCO d'appuyer les institutions de la République pour la mise en œuvre rapide de l'accord du 31 décembre 2016. C'est l'une des priorités stratégiques. Les discussions directes au centre interdiocésain n'ont pas abouti. Le chef a consulté au Palais de la Nation et se prononce aujourd'hui. Le rassemblement Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi n'était pas au Palais de la Nation. Bon nombre d'observateurs pensent que la crise est loin d'être terminée. La MONUSCO qui a reçu ses mandats va faire quoi exactement? Va-t-elle convoquer un troisième dialogue? Parce qu'il faut aussi précéder les événements. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les gens pensent que nous sommes loin d'en finir avec la crise. Merci.
Merci. Une fois de plus, comme je disais, M. Grisley, qui était à New York, a suivi, bien sûr, les discussions autour de l'adoption de ce nouveau mandat. Je crois que ce qui nous est demandé est assez clair dans cette résolution. D'abord, appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, Et ça, c'est vraiment une priorité pour la MONUSCO. Et nous allons essayer de voir comment accompagner donc cette résolution qui, j'allais dire, ce volet de la résolution, de la nouvelle résolution, de façon concrète ici. Mais Monsieur Gressler, peut-être que vous avez des éléments plus précis de comment la MONUSCO va accompagner effectivement la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre, tel que demandé par la nouvelle résolution, la 2348.
Peut-être que je dois devoir essayer de finir avec la question qui a été posée sur la situation dans les Kassai, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Je crois que c'est important d'avoir une présence appropriée dans cette région, étant donné le niveau de violence qui existe maintenant. Nous déplorons toute cette violence et on demande tout le monde impliqué de cesser cette violence, mais on va augmenter le nombre des effectifs sur le terrain, surtout à Kananga, mais aussi à Mbujimayi, et on va poursuivre quatre volets dans les Kosai. D'abord, on va continuer avec nos efforts dans la protection des civils dans les provinces concernées. Déjà, on a renforcé le nombre de patrouilles qui circulent surtout dans le Kassai central, mais ailleurs aussi. On va aussi donner un accent important sur le droit de l'homme. On va continuer de faire pas seulement le monitoring et le reporting qui a été demandé par la résolution du Conseil de sécurité, mais aussi on veut aussi faire une documentation des faits pour qu'on ait une idée claire qui était derrière tous ces actes de violence. Donc, ça sera très important pour notre travail là-bas. Aussi, nous sommes toujours très disposés de collaborer avec l'auditeur militaire qui va poursuivre les enquêtes sur la violence. Nous sommes très disposés et on a été invités en fait par le ministre des droits de l'homme d'aider, de donner une assistance dans dans ces enquêtes. Nous sommes très disposés de poursuivre ça aussi. Troisième volet, c'est de travailler avec le CENI d'assurer un bon déroulement l'enrôlement des électeurs dans les provinces concernées. Je crois pour la crédibilité des élections, pour le niveau de représentation de ces provinces, c'est très important que tout le monde ait accès pour l'enrôlement. Donc, on va collaborer étroitement avec le CENI pour assurer qu'il y a un bon processus. Et je peux citer pour le reste du pays où ce processus a déjà commencé, les résultats sont très bons. En fait, nous sommes très satisfaits avec les résultats jusqu'à maintenant. Même dans les provinces qui ont des difficultés de sécurité, je peux citer le Tanganyika et le Nord Kivu où ça progresse très bien maintenant. Mais on doit avoir le même résultat dans les provinces de Kassai pour que tout le monde soit enrôlé, pour qu'ils aient cette possibilité. Et quatrième volet, c'est d'assurer ou c'est demander un accès humanitaire. On sait que le financement humanitaire n'est pas au niveau demandé, mais nous sommes prêts d'aider où il y a un besoin, s'il y a un problème d'accès humanitaire. Donc, on va déployer d'autres personnels dans le média. On a déjà pris toutes ces décisions. On va aussi examiner notre présence, de notre force sur le terrain. On va aussi voir comment on va aussi augmenter le nombre de policiers de notre mission dans ces régions. Avec ça, je vais aller vers la deuxième question qui était liée à la nouvelle résolution qui a donné deux tâches prioritaires. D'abord, c'était de continuer avec nos efforts dans la protection des civils. Et le deuxième, comme c'était cité par le journaliste, c'était l'appui au processus de 31 décembre l'accord du 31 décembre et le processus électoral. Sur le dernier, je peux dire qu'on va continuer dans le même sens que nous avons fait dans le passé avec un appui logistique. On va proposer ça à la CENI. On doit discuter ça avec la CENI et on doit avoir un accord entre nous pour avancer sur ça. Mais déjà, on a des indications qu'on peut avoir cette demande pour un appui logistique et technique. On va travailler avec nos collègues dans le UN Country Team et surtout le PNUD qui gère le Trust Fund pour les élections. De travailler ensemble. En fait, nous avons une unité électorale qui comprend les deux. Donc, on va donner un appui logistique, technique pour les élections. Et je crois ce qu'on a déjà vu avec l'enrôlement des électeurs était très bien, qui veut dire que la capacité d'organiser les élections existe vraiment dans le pays. J'ai été impressionné moi-même par ce que j'ai vu sur le terrain avec le personnel du CENI qui était très engagé d'assurer le bon fonctionnement des centres d'enrôlement. Pour la deuxième partie, liée au processus, je veux dire la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, ça c'est quelque chose qu'on doit discuter avec tous les stakeholders, mais bien sûr on va continuer d'utiliser nos efforts dans des bons offices, d'examiner ensemble avec les stakeholders concernés, de trouver des moyens pour surmonter les défis qui restent toujours. C'est important de citer que on attend les élections dans cette année, en 2017. Ça c'était prévu dans l'accord et c'est notre attente aussi. Aussi, où il y a une demande, on va donner un appui technique, comme nous avons fait dans le passé avec l'initiative par le CENCO et aussi par l'Union africaine. Donc, on va continuer dans le même sens. Mais c'est important maintenant pour qu'on avance sur la mise en œuvre de cet accord. Je vais terminer mes commentaires ici.